quoi sommes-nous faits ? Images, souvenirs, langues, désirs, en français ou en lingala, en direct du Festival d'Avignon, des histoires d'héritage, c'est-à-dire de présent. Deux spectacles, deux artistes aujourd'hui qui se penchent sur leur passé ou plutôt sur un moment de leur histoire. Bonjour Faustin Lignicoula.
Bonjour.
Vous êtes chorégraphe, né à Kisangani, à une époque où la République démocratique du Congo s'appelait le Zaïre. De Zaïrois, vous êtes donc devenu Congolais en changeant de nom. Est-ce que vous avez changé de nationalité ?
C'est la question que je me suis posée en 97, quand il a fallu changer de passeport. Et comment réclamer un certificat de nationalité. Et j'avais produit un certificat de nationalité qui disait « et de nationalité zaïroise » et qui m'a été refusé par l'ambassade de RDC à Nairobi en disant qu'on veut un certificat où c'est écrit « et de nationalité congolaise ». Je me disais « mais est-ce que le fait de changer de nom change ma réalité ?»
Et
depuis, je cherche. J'essaie de comprendre.
Dans votre spectacle « Histoire du théâtre », en tout cas, vous revenez sur des souvenirs de 1974, quand est créé le Ballet National du Zaïre. Est-ce que c'est du coup un retour aux origines pour vous ?
C'est qu'à un moment, on commence à se poser la question de l'héritage. Qu'est-ce que j'ai reçu des générations d'avant moi ? Et là, je vais m'appuyer particulièrement sur des générations qui ont fait du spectacle au Congo avant moi, et qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je peux transmettre. Et en cherchant, il me semble que 74, avec la création du Ballet National et aussi surtout la création de leur premier spectacle, l'épopée de Lianja, c'était la première fois qu'on tentait de se raconter comme un peuple sur une scène.
Et dans votre héritage, vous avez quelle langue ?
Je parle en Swahili avec ma mère, avec beaucoup de mes amis, on parle plutôt en lingala. Mais je rêve en français.
Et on se parle en français.
On se parle en français.
Avec vous, Gustave Akakpo, bonjour.
Bonjour.
En français dans le texte. En mina, on dit comment ?
Bonjour.
En mina, on dit bonjour aussi.
Non, non. On peut dire bonjour aussi. Alors, le mina est très ouvert. On peut dire ndi. Ndi, c'est bonjour matin.
Et bonjour après-midi ?
Alors ça, j'ai pas l'habitude de dire bonjour dans l'après-midi, mais plus souvent, donc au Togo, on dit plutôt « ça va » plutôt que « bonjour », donc au foin.
Dans le cadre du programme « Vive le sujet », organisé par la SACD, vous avez créé un spectacle intitulé « Comme la France est belle ». Et en fait, c'est un plaidoyer pour le français. Vous dites que vous êtes amputé quand vous parlez en mina. C'est quand même fort comme phrase.
Oui, oui. C'est parce que c'est, pour moi, c'est aussi à l'image de nous, notre génération, je dirais, bâtard de l'Afrique, entre un héritage où le choc des rencontres avec l'Occident par l'esclavage et la colonisation a de fait, on est dans une société très bâtardisée où le fil de l'histoire des héritages s'est quelquefois coupé, interrompu. Donc il y a plein de choses de notre histoire qu'on méconnaît et que de nouvelles générations vont aujourd'hui chercher des figures. Aujourd'hui, on parle par exemple des personnages comme Tassi Mbwe, comme cette princesse qui s'est dénudée en pleine assemblée au Dahomey pour affirmer sa liberté, toute princesse qu'elle est, de pouvoir choisir. Donc il y a des figures comme ça et moi, je parle en mina qui est très trafiqué parce que je parle les deux langues en même temps et donc il y a une facilité à se rabattre sur le français puisque le français est aussi langue parlée mais aussi langue de l'école, donc à me rabattre sur le français. Et puis il y a des réalités que j'ai pas apprises à nommer en mina, donc tout d'un coup je me trouve amputé dans cette langue. Oui.
Donc le français n'est pas pour vous la langue du colonisateur que certains dénoncent et voudraient pratiquement effacer.
La colonisation, c'est fini. À la rigueur, si on veut parler de la langue du néocolonisateur, je veux bien entendre ça. Mais ce n'est plus, c'est, Kateb Yassine le dit très bien, la langue est un butin de guerre. Donc, on le sait très bien, puisque la langue ne peut pas être un territoire où on se mange, parce que, comme il le dit aussi très bien, dans la langue de celui qui me domine, je peux lui dire qu'il a tort de me dominer. Donc, comme espace culturel, la langue est en dehors de nos champs de bataille. En revanche, ce qui est très clair, c'est qu'une langue forge un imaginaire, forge aussi nos manières de voir le monde. Déjà, la définition d'un mot, c'est déjà une vision du monde. Oui, forcément, donc ça imprime quelque chose dans nos corps, dans notre pensée, oui.
Gustave Akakpo, Faustin Ligné-Koula, vous êtes aujourd'hui les invités de RFI, avec sur les platines Claire Diterzi, qui est présente dans le Festival d'Avignon, en tout cas dans le OFF, avec au théâtre Le Barracade, un spectacle intitulé « Concert à table ». Claire Diterzi dans Deux Vives Voix, en direct du Festival d'Avignon, avec aujourd'hui Gustave Akakpo et Faustin Ligné-Koula. En voyant Histoire de théâtre, votre spectacle, Faustin, je me suis demandé si finalement ce n'était pas la première fois en 73 ans, le temps de l'existence du Festival d'Avignon, que l'on entendait du Lingala dans ce festival.
Non, je ne crois pas, parce que...
Est-ce que vous êtes déjà venu ?
Je suis venu par les passés, et puis... Peut-être pas autant. Et qu'à chaque fois que j'ai été là, c'était avec des interprètes avec qui je parle surtout en français, surtout des choses qu'on veut exprimer sur le plateau. Et là, c'est la première fois que je suis entouré d'interprètes avec qui il fait plus sens d'exprimer cette chose-là en Lingala que dans toute autre langue.
Alors ce spectacle, Histoire de théâtre 2, est très singulier, car il s'inscrit dans une suite, en fait. L'idée étant de faire du théâtre à partir d'un fait réel, ce qu'avait fait Milo Rao l'an dernier avec un spectacle qui s'appelait La Reprise. Donc vous prenez la suite.
Sauf que Milo Rao ne m'a pas, quand il a initié ce projet, qu'il m'a invité, il ne m'a pas demandé particulièrement de travailler à partir d'un fait réel. La seule demande de sa part, c'était: c'est quoi ton histoire du théâtre? Et à partir de là, j'ai voulu me tourner vers mes premiers souvenirs de spectacle, et ça m'a emmené vers des personnes que j'ai vues à la télévision zaïroise dans les années 80, et c'était le Ballet National du Zaïre, avec leur première création, l'épopée de Lianja.
Donc c'était en 74, et c'est un ballet qui a été célébré partout dans le monde.
Oui. Oui, c'est que en 74, donc ça faisait 9 ans que Mobutu avait officiellement pris le pouvoir, parce que même si depuis 1960, il était déjà aux commandes, il laissait encore Kassavubu faire le président, mais en 65, il décide enfin de prendre le pouvoir et d'assumer que c'était lui le patron. Et les premières années, il a besoin d'asseoir son pouvoir par le sang et de se faire craindre. Et à partir de 71-72, donc en 71, quand il décide déjà de changer le nom du pays de Congo à Zaïre, il est dans une phase où il sent que maintenant, je peux commencer à construire mon mythe. Le mythe du bâtisseur ou du fondateur. Et en 74, enfin, il rejoint la danse des ballets nationaux, cette danse qui a été initiée d'abord en Guinée par Sékou Touré, et il crée le ballet national comme cet espace à la fois pour célébrer la nation, mais surtout pour se mettre en scène comme le bâtisseur de la nation. Et il choisit comme premier spectacle un conte des origines du peuple mongo dans la région de l'Équateur, mais il retourne tout ça en l'étendant à tout le peuple du Zaïre. Donc le conte des origines du peuple mongo n'est plus seulement ne raconte plus les origines du peuple mongo, mais raconte les origines de tout le peuple du Zaïre, et il se met en scène comme Lianja, le personnage, le héros mythique des peuples mongo. Et ça devait être un espace pour éduquer les Zaïrois sur ce que la nation, et c'est pas pour rien qu'il fait dire à Lianja, maintenant ça va être la naissance d'une nouvelle nation.
Archive.
La politique de recours à l'authenticité, de quoi s'agit-il? Tout simplement de ceci: refuser désormais d'une manière catégorique d'être des copies certifiées conformes, c'est-à-dire de la révolution, nous ne pouvons plus accepter d'être dans ce continent des Français d'Afrique, des Belges d'Afrique, des Américains d'Afrique, des Italiens d'Afrique, mais des Africains authentiques.
Mobutu, dans le texte que l'on entend dans votre spectacle, Faustin Ligné-Koula, c'est quoi l'authenticité? Parce que quand même, c'est un concept assez ambigu et politiquement assez dangereux.
Et c'est ça qui est fascinant à analyser aujourd'hui. C'est que ça a été une grosse escroquerie, finalement. Au nom de l'authenticité, Mobutu, en 71, décide de changer le nom du pays de Congo à Zaïre. Sauf que Zaïre, il trouve ce nom dans les manuscrits portugais. Et la légende veut que ce soit juste une mauvaise retranscription d'un mot générique pour un grand fleuve en langue Kikongo. Quand les premiers Portugais arrivent en 482 dans la région de l'embouchure du fleuve Congo, ils demandent au peuple Congo qui était là, c'est quoi le nom de ce fleuve? Eux, en Kikongo, fleuve ou grande rivière, c'est Nzadi. Et c'est ça que les Portugais retranscrivent comme Zaïre. Et au nom de l'authenticité, c'est ça qu'il va chercher comme nom authentique. Déjà, on est dans un espace complètement embrouillé, finalement. Et tout le temps, il n'y aura que des choses comme ça. Au nom de l'authenticité, il décide de rejeter le costume cravate à l'occidental, mais il adopte le costume de Mao, il rajoute un col, il appelle ça abacoste, abat le costume, sauf que ces abacostes étaient toujours cousus par des Européens. Au nom de l'authenticité, il crée le ballet national, mais pour mettre en scène l'épopée de Lianja, il va chercher un franco-italien qui vivait dans le Katanga.
Donc, mais alors, pourquoi rendre hommage à ce moment de l'histoire et à ce ballet national si, finalement, c'est une instrumentalisation de la culture?
Instrumentalisation de la culture, certes, mais ça n'empêche que ça reste un moment important à comprendre pour justement comprendre tout ce qui s'est passé après et même avant. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est la première fois que on a tenté de se raconter sur une scène en tant que peuple. Certes, au service d'une idéologie, dangereuse et tout, mais il reste qu'il y a eu cette tentative-là. Et il y avait des personnes derrière. Et pour moi, c'est pas tant rendre hommage à cette période-là que rendre hommage, si hommage il y a, aux personnes qui ont été embarquées dans cette aventure sans se rendre compte de ce que c'était finalement.
Et justement, vous avez retrouvé trois des danseurs de ce ballet national. Et ça, c'est très émouvant dans votre spectacle, car les spectateurs voient les images d'archives où ils sont tout jeunes. Et sur scène, ces deux femmes et cet homme qui sont presque des survivants.
Je vous prie d'accueillir Maman Djoku Masula, Marie-Jeanne.
Lianja ya mama e, osali bandeko na yo nini e.
La première fois que j'ai entendu Maman Djoku chanter cette chanson, c'était à Kisangani. Cela ne faisait que quelques heures que je la connaissais, et 7 jours, je l'ai entendu chanter cette chanson au moins 5 fois, et bien d'autres fois les jours suivants. Voilà, à chaque fois, elle chante cette chanson, même aujourd'hui, elle a les larmes aux yeux.
Extrait de Histoire du théâtre, votre spectacle Faustin Lignécoula. Ce ballet existe encore aujourd'hui, même s'il ne produit plus rien.
Oui, c'est un peu dans un état végétatif, on pourra dire. La dernière création du ballet, c'était en 1984. Ils ont sporadiquement tourné un peu jusqu'en 92 avec cette dernière création qui s'appelait Elimangando. Et depuis, ils sont là, ils attendent.
Vous êtes devenu chorégraphe grâce à eux?
Je pourrais pas dire ça parce que quand j'ai commencé, comme tout ce qui commence, on se place un peu dans une attitude de rupture. C'est comme si il n'y a jamais eu rien avant nous et nous on va changer le monde. Et c'est aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis peut-être que indirectement,
inconsciemment presque.
Oui, inconsciemment, c'est peut-être parce que ils ont fait ce chemin-là avant moi que ça a permis mon voyage aujourd'hui.
Gustave Akakpo, pourquoi êtes-vous devenu écrivain de théâtre? Est-ce qu'il y a comme ça, dans l'inconscient, dans votre histoire, un déclencheur?
Il y a plusieurs déclencheurs. Je pense que, inconsciemment, le premier déclencheur, ou un déclencheur un peu païen, sorcier, c'est mon prénom, parce qu'en fait, je m'appelle Gustave Akakpo, officiellement, enfin officieusement ou officieusement, je ne sais pas, en tant qu'écrivain, c'est ce que je me suis choisi, puisqu'à partir de l'adolescence, quand j'avais 16 ans, parmi mes 6 prénoms, j'ai décidé d'imposer Gustave, puisque quand j'étais enfant, on m'appelait Dodo, c'était un de mes prénoms. Mais à 16 ans, Dodo, c'est lourd à porter, donc j'ai décidé que j'imposerais Gustave, et du coup, on me connaît comme Gustave. Mais ce n'est pas du tout le prénom qu'il y a sur mes papiers d'identité, puisque au nom de la politique de l'authenticité, aussi en 1974, au moment où l'année de ma naissance, le président togolais, donc là on quitte le Congo, on va au Togo, mais les présidents se suivant, et Adema, qui s'appelait Étienne, a décidé de, au nom de la politique de l'authenticité, de prendre un prénom authentique et du coup d'interdire les prénoms dits importés. Du coup, tous les prénoms importés occidentaux n'étaient pas autorisés à figurer sur nos papiers d'identité. Donc sur mon papier d'identité, c'est Adjininou, donc un de mes prénoms. Et ce prénom est donné aux gens de ma culture, de la culture de mon père, le peuple de mon père, qui sont les Plats. Et parce qu'on suppose dans ce peuple-là qu'en venant au monde, l'enfant hérite d'esprit d'ancêtre plus vieux que lui, et on lui donne le nom pour que ce nom devienne comme un sceptre à partir duquel le jeune esprit arrive à communiquer avec les vieux esprits. Donc Adjininou veut dire donner naissance, est un trésor. Et parce que enfant, on disait que j'étais aussi, j'avais l'esprit d'un de mes ancêtres qui était très distrait. Je partais souvent dans ma tête, et donc par exemple, je pouvais rentrer d'école et foutre mon cartable dans le frigidaire tellement j'étais dans ma tête. Et en fait, ce qui se passait aussi, c'est que je m'ennuyais beaucoup à l'école, et du coup, j'étais toujours à me raconter des histoires. Donc, je pense que c'est un des points. Et puis après, il y a les lectures, les auteurs que j'ai lus, les pièces de théâtre que j'ai vues, un des acteurs qui m'ont donné envie. Par exemple, il y a Sans Vie, Benoît Alouassio, que j'avais vu à la télé quand j'avais 9 ans. Et moi, ça m'a... voilà, c'est un des...
Ça vous a donné envie. Alors, ici à Avignon, vous créez une petite forme à l'initiative de la SACD. Et l'idée, c'est en fait de vous associer à un autre artiste. Oui. Et pour ce spectacle, qui dure une quarantaine de minutes, vous avez choisi un clown, Frédéric Blin, qui est totalement hilarant, qui joue tour à tour le metteur en scène du off, qui vient avant le début de votre spectacle faire la publicité de son propre spectacle. Ça crée une certaine gêne dans la salle, parce qu'on se demande si c'est vrai ou pas. Après, il joue le rôle d'une spectatrice qui intervient tout le temps, puis celui d'un complice. Bref, on rit pendant 40 minutes, et le rire est presque un contrepoint sur ce que vous dites, qui est très sérieux.
Oui, parce que en fait, quand la proposition m'a été faite, je suis parti déjà de l'envie de quel territoire moi j'avais envie d'explorer, et le clown, ça me tente, même si dans mon écriture il y a toujours ce rire grinçant. En tant qu'interprète, je peux être très facilement pris dans la musique, la musicalité de la langue, et je sais que c'est pour moi parfois difficile d'être dans le concret. Enfin, en tout cas, c'est le travail que je fais, et donc je me suis dit, il y a les clowns, ils sont toujours présents, comme les enfants, ils sont toujours à l'instant présent, donc j'avais envie de travailler avec un clown, en l'occurrence lui, qui pour moi, Frédéric Blin, c'est comme un jongleur de l'espace et du temps. Il réagit à tout, et il a réagi à une vitesse incroyable.
Mais du coup, on se demande, pour reprendre une expression très française et bien française, si c'est du lard ou du cochon, ce que vous dites.
Oui, parce qu'en fait, sur ces questions-là, je trouve qu'il y a une manière, le risque c'est d'aborder ce sujet, c'est de le faire de manière assez poussiéreuse, parce que c'est pas évident de devenir un défenseur de la langue, ce qui est déjà un terme en soi, que ça veut dire quoi, défenseur de la langue, et donc d'être en contrepoint comme ça permet de l'aborder dans un délire.
C'est un plaidoyer pour la langue française, mais c'est aussi contre les Français qui dénaturent cette langue française.
C'est un plaidoyer de considérer aussi la langue pour ce qu'elle est, comme un espace mental, un espace culturel et un enjeu géopolitique. C'est ce que ça raconte. C'est l'histoire de l'organisation de la francophonie le raconte très bien. Les pères de la francophonie, les Senghor, les Nasser et tout ça, contrairement à la France qui n'a pas su, se décoloniser elle-même et créer en face d'elle des partenaires solides pour pouvoir mener une aventure commune, parce que c'est quand même pas rien. L'histoire nous a forcés à être ensemble. On aurait pu en faire un pari pour l'avenir. On a fait une catastrophe. Donc la politique africaine de la France est très nul, mais ce sont les pères de la francophonie qui, eux, ont repris ce mot, on connaît son origine, qui en ont fait quelque chose. Et la France, c'est très emblématique de ça, n'y a adhéré que plus tard. Aujourd'hui, on est encore dans cette situation où Macron peut dire à Francfort, cette année, le salon du livre accueille la France et la francophonie, comme si la France n'est pas dans la francophonie. On est toujours dans ça. Voilà.
Oui, et on pourrait imaginer une autre histoire qui est évoquée d'ailleurs comme une pirouette dans le spectacle de Faustin Linécoula. Les Belges auraient pu devenir congolais.
Oui, c'est génial. J'adore ce moment.
Et du coup, finalement, le Wallon et le Flamand pourraient être des
tribus congolais.
Des tribus congolaises avec d'autres langues au Congo, faudrait y réfléchir. Ouais. Comme elle est belle la France, c'est au jardin de la Vierge du lycée Saint-Joseph, donc en plein air.
Ce sont les mots français eux-mêmes qui, suivant l'exemple, en cannibalisent d'autres. Ainsi, on gère l'argent comme on gère les êtres, comme on gère le temps, comme on gère son couple, comme on gère sa vie. Et on guillotine la langue à coups d'apocope, de colloques, de télé, de bénéfices. La dernière fois, un ami m'a dit « Je suis des os ». Ce n'est plus la langue de Molière que vous parlez, mais la langue de Coluche. Et c'est l'ADN, le patrimoine maternel de la langue, qui est altéré. C'est ainsi que la langue française de France fait boutique son cul, se conjugue à la merloque et débute « avoir l'opportunité » au lieu de « avoir l'occasion ». Je reviendrai vers vous au lieu de « je vous répondrai plus tard ». Faire la maintenance au lieu de « faire l'entretien ». Et c'est tout au pan de notre mémoire, de notre pensée, de notre culture commune qui s'écrit. Le premier film français qui obtient enfin un Oscar, The Artist. Le titre en anglais, les dialogues, ben il n'y en a pas.
Je vous disais qu'on riait à votre spectacle, Gustave Akakpo, cet extrait en témoigne. Les rires couvrent presque les mots que vous prononcez sur scène. Dans le spectacle,
je dirais pas couvre.
Moi, je, non, mais je dans l'enregistrement, en tout cas.
Oui, oui, dans l'enregistrement. Enfin, c'est assez intéressant de l'écouter à la radio parce que les gens vont pas comprendre pourquoi ils rient. C'est pas ma parole qui les fait rire, c'est tout ce que Frédéric Blin fait à côté qui les fait rire. Et pour l'expérience de spectateur que j'ai eue, qui m'ont fait le plaisir de partager ça avec nous, c'est de dire comme s'ils étaient dans une expérience de distorsion entre l'émotion qu'ils ressentaient à moi en arrière-plan et le rire que ça vient. Mais je pense que...
Mais vous provoquez vous-même le rire parce que votre entrée sur scène est quand même assez inquiétante, étrange, mais mal à l'aise. Vous arrivez au bras donc de Frédéric en jouant le singe. Ouais. Et puis vous parlez avec un accent régional, comme absolument. Il est dit dans le spectacle, c'est-à-dire ce que nous on appelle petit nègre.
Oui,
donc il y a du malaise quand
absolument,
même.
Absolument, absolument. Bah, c'est du lard et du cochon.
Oui, c'est du lard et du cochon. En tout cas, je trouve que vous êtes prêt pour l'Académie française. Vous êtes candidat ? Il y a de la place en ce moment.
Ah ?
Bah oui. Défenseur de la langue française comme vous.
Ah bah ouais.
C'est votre place, vous n'y avez pas pensé avant.
Bah non. Zut, il faut que j'y... Enfin, il faut faire un dossier, il faut faire quelque chose, il faut être copté.
Je vous dirai comment il
bon,
faut faire.
Le
seul problème peut-être, c'est que vous avez trop d'humour. Ah, est-ce qu'ils ont autant d'humour, les académiciens? Je ne suis pas sûr.
Dany en a beaucoup.
Dany Laferrière en a pas mal, c'est vrai. Mais peut-être qu'il ne voudrait pas un rival à l'intérieur de l'Assemblée. Faustin Lignecoula, vous, le chorégraphe qui est censé ne pas aimer les mots, mais ça c'est impensif, hein, bien sûr, quand je dis ça. Comment vous vivez ce rapport que les Français entretiennent à leur langue, ce qui est un des sujets du spectacle de Gustave?
Bon, déjà... je sais plus qui disait que le français nous appartient aussi. Et tout à l'heure, je disais que je rêve en français. Pourtant, ce n'est pas la langue que je parle avec ma mère. Ce n'est pas la première langue que j'ai parlé. Et je peux dire que je suis arrivé justement à la danse grâce au français, grâce à l'écriture en français. Parce que j'avais 15 ans quand j'ai commencé à écrire. Et c'est en lisant mes poèmes à l'école que quelqu'un m'a parlé de l'atelier théâtral du Centre culturel français où j'ai rencontré des gens qui m'ont appris que le théâtre, c'était pas un texte, mais que c'était des corps en face d'autres corps. C'est qui a pu me conduire à la danse après. Et donc, aujourd'hui, en fait, j'en suis à un point où tu me dis que pendant très longtemps... Nous, en Afrique, nous avons passé beaucoup de temps à essayer de demander aux Français de... Donc, voilà, quand on dit « le français nous appartient aussi », c'est presque comme si on demandait aux Français de nous laisser une petite place à la table. Aujourd'hui, bon, je pense que j'en suis plus là, je suis plutôt à dire « oh, je vais construire ma propre table, c'est pas très grave ».
Quelle que soit la langue, et avec cette langue.
Oui, avec cette langue, parce que j'aime vraiment cette langue. Et tant pis si les Français pensent que l'Europe est toujours le centre du monde, parce qu'ils ne l'est plus. Et le jour où ils vont se réveiller, on verra que nous, on ne les attend pas. On construit d'autres tables, on construit d'autres cuisines et on va continuer.
Vous avez quand même le sentiment, l'un et l'autre, que le français est en danger? Enfin, c'est ce que vous dites dans le spectacle. Hein,
non, je dis pas que le français. Je dis le français de France est en danger. Oui, d'une certaine façon, le français en tant que système qui regroupe des peuples qui s'expriment dans cette langue est en danger. Parce que le monde actuel étant plus dans un système capitaliste, marchand, financier, anglo-saxon, qui s'appuie sur l'anglais, qui n'est pas non plus l'anglais de l'Angleterre, je sais pas, mais c'est un certain anglais.
Vous dites que c'est du ça. Français mal prononcé, l'anglais.
Oui, ouais, non mais ça c'est vrai. Ça, c'est vrai à l'origine. Et ça, c'est assez intéressant de voir la position de domination et de déni que notamment les États-Unis ont par rapport à l'anglais. Bien sûr, ce sont des langues latines, mais c'est prouvé que 63% des mots anglais sont d'origine française. Et ça, ce n'est pas enseigné au grand public en anglais. Voilà, c'est rééquilibrer les choses, c'est créer un autre espace. C'est le fait qu'aujourd'hui, on puisse avoir une autre communauté aussi.
Et vous rêvez en quelle langue, Gustave Akpo?
Je rêve... je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle langue je rêve. J'arrive pas à savoir. C'est une...
En dodo?
C'est ça.
Merci, merci beaucoup. Merci Faustin Lignecoula, merci Gustave Akakpo. Histoire de théâtre 2 va partir en tournée dans toute l'Europe et arrivera à Paris en 2020, je crois. Comme la France est belle, c'est le projet d'un festival, mais ouais. Peut-être qu'il y aura d'autres rendez-vous avec J'espère. Cette proposition. En tout cas, je connais un certain nombre de personnes, de personnalités qui ont été très touchées par votre plaidoyer pour la langue française. Merci beaucoup de vive voix avec Véronique Durand, Guillaume Ploquin. On se retrouve demain, toujours en direct de l'Hôtel d'Europe au Festival d'Avignon.